Bonjour Antoine.
Salut Camille.
Est-ce que tu peux te présenter et me dire où on est maintenant?
Je suis journaliste, DJ, j'ai écrit un bouquin, j'ai fait quelques guides sur Paris. Et là, on est chez moi, dans l'appart où j'habite en coloc, devant le bois de Vincennes, où on organise souvent des fêtes. Avec la vue sur le bois.
Pas mal d'avoir un aspect verdure.
Ah ouais, c'est carrément cool. C'est un pied dans Paris, un pied à la campagne.
Du coup, est-ce que tu peux me dire sur quoi tu travailles en ce moment? Quels sont tes projets sur lesquels tu te concentres?
Je peux te dire ce que je viens de terminer, par
Ouais,
exemple.
bien sûr, ouais.
Là, je viens de finir
Un peu dans
un.
l'immédiat, quoi.
Ouais. Je viens de finir un article pour Le Monde diplomatique sur la Free Party. Où j'essaye d'expliquer la légitimité sociale et culturelle de cette scène dans le contexte sécuritaire et consumériste qu'on connaît. C'est des bulles de résistance au capitalisme, c'est des bulles de liberté, et c'est également des îlots où les jeunes, c'est souvent à la campagne, peuvent se retrouver et écouter de la musique, faire la fête. Dans des endroits qui sont souvent des déserts culturels. Les pouvoirs publics ne laissent pas d'espace à cette culture, à cette scène, alors qu'elle est très très importante pour les gens qui fréquentent ces fêtes et qui n'ont pas le choix, ils lâcheront pas l'affaire, parce que si c'est pas ça, c'est la boîte vulgos du coin, il n'y a rien en fait, souvent dans ces campagnes. Les free parties, elles ont un vrai rôle et qui n'est pas reconnu et qui, j'espère, va finir par l'être.
La différence entre le free party et un festival classique d'un week-end, par exemple.
Une free party, c'est bénévole.
D'accord. Personne n'est payé, tout le monde participe à ses frais et du coup amène quelque chose à partager.
Bah ouais, c'est un lieu d'expression libre. Les gens jouent gratuitement, les spectateurs viennent gratuitement, enfin les spectateurs, le public. C'est un endroit qui échappe au fonctionnement habituel de la société marchande.
Ok.
C'est vachement important en fait.
Et du coup, tu travailles pour Le Monde diplomatique de manière régulière ou tu fais des articles un peu...
Temps en temps,
D'accord.
je leur ai fait un papier il y a quelques années sur l'esprit de la teuf, en fait sur les valeurs véhiculées par la fête techno. Depuis ses origines jusqu'à aujourd'hui. Donc ça se balade entre qu'est-ce que ça signifiait de faire de participer à une fête techno, quelles étaient les valeurs qu'on trouvait dans ces fêtes, à Chicago, à New York, dans le ghetto dans les années 80, en Angleterre, fin 80, début 90, dans le contexte de Thatcher, le contexte ultralibéraliste. En Allemagne, au début des années 90, et d'ailleurs dans toute la décennie, dans le contexte de la réunification, à Goa, dans un contexte plutôt néo-hippie, et en France, justement, ce qui caractérise, enfin, en tout cas, ce qui fait vraiment la particularité de la scène française, c'est la free party. Parce que pour le reste, on est un petit peu, pour dire la vérité, on est un peu à la traîne en matière de clubs, de festivals, on est un peu à la traîne
D'événements festifs, ouais.
par rapport aux Allemands, aux Anglais, quoi.
Ouais.
Mais la free party, c'est une spécificité française qui est due au fait que on est dans un état très policé, quoi. Il y a une grosse pression de l'État sur notre mode de vie. Et la free party, c'est vraiment une réaction à ça, quoi. Une
D'accord.
échappatoire.
Ok. Et donc, en plus de cet article-là, sur quoi tu travailles régulièrement et autour du monde de la nuit, toujours en tant que DJ, du coup, tu fais des.
Bah, là, moi, ça fait des années que je suis journaliste. J'écris sur des sujets société, des sujets voyage et sur la musique électronique. Et là, ces derniers mois, on a bossé sur un projet de fanzine, moitié fanzine, moitié beau livre, miniature, qui est un recueil d'œuvres autour de la fête sous pression du Covid. Donc on a demandé à des graphistes, on a du graphisme, des dessins, du collage, des photos, de la poésie et un peu d'enquête journalistique sur ce qui vient de nous arriver là, pendant un an et demi, le tunnel dont on est en train de sortir, Inch'Allah.
Ouais.
Et sur donc ce que le Covid a, la pression que le Covid a fait peser sur la fête. Et le fanzine s'appelle Perlimpinpin. Il est disponible nulle part à part en teuf parce qu'on se débrouille pas très bien pour l'instant, mais je pense qu'on va on va ouvrir une page KissKissBankBank où on pourra l'acheter en ligne et on va communiquer dessus. J'espère qu'il y aura des articles dessus parce que c'est un beau travail, vraiment 90 pages qui essaye d'archiver ce qu'on a vécu, qui est un moment unique en fait.
Et toi, cette année, année et demie maintenant qu'on vient de passer, on va pas forcément parler trop du Covid parce qu'on a tous marre de parler de ça. En quoi elle a changé ton rapport à la fête ? Si elle l'a changé d'ailleurs.
Il n'y a plus de rassemblement public. On s'est surtout retrouvés en petit comité. On est parti faire la fête à la campagne, on a fait la fête dans des apparts, dans des caves, dans des pavillons, un peu dans des squats. Et en fait, notre tissu social s'est resserré sur les gens qu'on connaissait. On a fait assez peu de nouvelles rencontres pendant cette année et demie. Après, il y a beaucoup de gens, j'ai organisé pas mal de choses, j'ai pas mal de potes qui ont organisé des trucs, mais il y a beaucoup de gens pour qui le Covid, ça a complètement stoppé leur pratique de la fête. Moi, c'est pas du tout le cas, j'ai fait la teuf quasiment tous les week-ends, juste en petit comité, de façon un peu étriquée, quoi. Il n'y avait plus cet air frais qui est apporté par les nouvelles connaissances qui fait Enfin, la fête, c'est d'abord un endroit où on se rencontre, et là, on a un peu tourné en rond, voilà.
D'accord. Et du coup, ton amour pour la fête, mais c'est plus qu'un amour, c'est un intérêt, on va dire. Il est venu naturellement, grandissant, et après, le fait de manier journalisme et le monde de la nuit, c'est venu, le monde du jour aussi, on peut très bien faire la fête le jour, c'est venu naturellement, ou c'est quelque chose lequel a précédé, si tu peux le dire?
Moi, j'ai découvert la teuf quand j'avais 19 ans. Je viens d'un milieu assez conservateur. Dans lequel j'étais pas très à l'aise. Et quand j'ai découvert cette cour de récréation remplie de gens sympas, bienveillants, créatifs, j'ai fait bon sang, mais j'attendais ça depuis toujours, quoi. Donc ensuite, quand j'ai fait mes études et je suis devenu journaliste, naturellement j'ai eu envie d'écrire sur cette scène. Et puis de m'immerger dans la musique, de devenir DJ et ça a fini par être mon quotidien, quoi.
Parce que du coup toi c'est le monde de la musique électronique plutôt qui t'attire, parce qu'il y a plusieurs types de fêtes et il y a plusieurs types de forme de faire la fête, donc est-ce que c'est en particulier la musique électronique? Est-ce que c'est venu naturellement
c'est la musique électronique moi qui m'a plu. Après, je m'intéresse aussi à d'autres scènes, au cirque nouveau, au rock, au punk, ça m'intéresse aussi.
D'accord, donc c'est en fait, en général.
Avec les années, je m'ouvre un petit peu à toutes les formes d'art, quoi. Mais la base, c'est la teuf techno, quoi.
Qu'est-ce qui t'attire le plus dans la, si tu peux arriver à le définir, dans la fête de la techno, quoi, ou l'électronique?
L'abandon.
L'abandon, d'accord. Quand tu danses au niveau de...
Ouais, mais c'est aussi les rapports entre les gens quand tu fais la fête ensemble pendant des heures et des heures, et que tu prends toutes sortes de substances.
C'est ça, il y a les drogues aussi qui jouent un rôle, ouais.
Mais y a un moment où tu laisses aller, quoi, et tu peux faire des, tu parles vraiment aux gens, tu sors des rapports un peu policés qu'on a habituellement,
Tu
Tu fais des.
t'essayes,
Tu,
ouais.
tu, ouais, tu te. Tu t'ouvres. Et les gens s'ouvrent à toi. Et on se parle profondément. T'as vraiment. Et puis on rigole. C'est léger. C'est donc. Et puis bizarrement, la fête, c'est un lieu où les gens créatifs se retrouvent. Quand on a voulu faire ce fanzine, on a eu qu'à lever le. On a eu qu'à faire un appel, à regarder autour de nous, il y a plein de doigts qui se sont levés. Je fais, ouais, moi je fais ça, je fais ça, je fais ça. C'est rempli de gens, c'est rempli d'artistes, la teuf, quoi. C'est un endroit qui. C'est une manière d'être, un climat qui attire les gens intéressants.
Et est-ce que tu as l'expérience de faire la fête sobre, sans prendre de substance du tout?
Moi, mais j'en prends assez peu, en fait.
Ouais.
Moi j'aime bien garder le contrôle.
Ouais.
Enfin, garder le contrôle. J'aime bien pas être complètement parti en fait. Après, en fait, je me la colle beaucoup moins qu'il y a quelques années. Mais toujours un petit peu. J'aime bien rajouter un petit peu d'euphorie, quoi. Mais j'aime bien garder le contrôle de mes discussions, être capable de m'exprimer, de comprendre ce que la personne me dit. Donc je me mets pas les quatre fers en l'air, quoi.
D'accord. Et pour revenir sur ton parcours qui t'a amené où tu es aujourd'hui, est-ce que tu peux penser à, sans forcément faire un ordre chronologique de de ta formation et de toutes les expériences que tu as eues, mais si tu devais vraiment faire ressortir 3-4 projets ou travail ou expériences que tu as eues, que ce soit en tant que DJ, en tant que journaliste, lesquelles ce serait?
Ben,
Grosse question, hein.
tout, non, 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 mais il y a les grands projets de ces 20 dernières années. Ben, il y a évidemment l'écriture en tant que journaliste, essayer de m'attacher à décrire la scène dans laquelle j'évolue. Ça fait des années que je bosse pour le magazine Trax, même si j'ai levé le pied depuis 2 ans, mais pour Trax ou pour d'autres journaux, mais essayer de raconter, de défendre la scène des musiques électroniques. Ça, c'est vraiment c'est un peu la mission que je me suis fixée, entre guillemets. Je suis parti en vacances, c'est un peu ça, mais je suis parti en voyage pendant 1 an. J'ai fait le tour de l'océan Indien et j'ai écrit plein de reportages pendant ce. Enfin, j'ai fait plein de reportages, enfin, 7 reportages, je crois, pendant cette année de voyage, et j'ai également écrit un récit de voyage qui est sorti en 2011 et qui s'appelle Un an autour de l'océan Indien, où je raconte mon quotidien. Ça, c'était un joli projet qui commence à s'éloigner maintenant, c'est il y a 10 ans, mais je tombe encore sur des gens encore des gens qui m'écrivent en disant je suis tombé sur votre livre et tout, j'ai kiffé. Ce voyage m'habite encore. Et
T'avais,
puis, oui, vas-y, vas-y, vas-y.
une question. Oui, non, parce que du coup, j'ai regardé, j'ai vu le livre. T'avais, avant de partir, t'avais ce projet en tête de manière précise. Qu'est-ce que tu cherchais, en fait, dans ce périple?
Ben, en fait, j'avais envie d'écrire des j'avais envie d'écrire j'avais envie de faire des grands reportages, en fait, de sortir un peu de la musique électronique
De voir ce qui se
et de
passait,
parler
ouais.
d'autres choses. Je suis allé voir Libération pour leur proposer des sujets, et puis Libé m'a dit oh bof, des grands reportages, pourquoi pas, mais bon. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on est en train d'ouvrir une chronique voyage, et on aurait besoin d'un blog de voyage, d'un récit de voyage. Donc vous pouvez le poster chez nous. Donc tous les 15 jours ou tous les mois, je leur envoyais un texte avec une photo. Et ce qui a fait que le truc a eu une certaine audience, et c'est comme ça que j'ai été contacté par un éditeur qui m'a dit qu'il avait envie
Et pourquoi
d'en
l'océan
faire un
Indien?
livre. Parce que c'est la partie la plus préservée. Enfin, je trouve que c'est là où il y a les civilisations les plus riches, et préservée également de la civilisation occidentale. L'Inde, j'avais envie d'aller en Inde, j'ai passé 5 mois là-bas. Je suis allé au Yémen, en Iran, en Syrie. J'ai passé 3 mois en Éthiopie. Je suis redescendu plus au sud, vers le Somaliland, vers le Kenya, l'Ouganda. Je suis rentré un peu dans les terres. Et j'en ai pris plein les yeux, quoi. C'est juste. C'est des pays incroyables, hyper différents, avec une culture très forte, très éloignée de la nôtre. Et c'était génial, quoi. Enfin, après, je suis devenu journaliste, j'ai commencé à écrire sur le voyage. Donc ça m'a ouvert des portes et je suis reparti ensuite régulièrement pendant des années, un peu partout, pour faire des papiers voyage. Et d'ailleurs là, en ce moment, avant le Covid, je devais partir pour le petit futé pour devenir guide de rédacteur de guide de voyage. Et donc là, le Covid est en train de plus ou moins s'arrêter. Et donc, je suis en train de voir si cette promesse d'embauche tient toujours.
Écrire du coup pour le petit futé dans différents pays.
Ouais, normalement, je devais partir en Californie du Nord et à San Francisco, faire 2 guides, un sur chacune de ces destinations, et si ça marchait bien, enchaîner sur Dresde et ensuite sur la Nouvelle-Calédonie, qui sont des régions que je connais déjà pour y être allé en reportage. Et voilà, j'attends de voir si ça va se faire.
D'accord.
Je croise les doigts. C'est ça le projet du... Enfin, c'est un des projets du moment. C'est un des projets du moment. Et puis sinon, le projet qui occupe... mon quotidien depuis presque 10 ans, c'est le collectif que j'ai monté avec quelques amis qui s'appelle Microclimat, et on organise des fêtes dans les bois, dans les souterrains, sur des bateaux. C'est des fêtes gratuites ou bon marché, c'est des free parties pas mal, mais pas uniquement. On va aussi dans des endroits, dans des tiers-lieux, pas mal dans les tiers-lieux. Pas tellement en boîte, ça nous est arrivé, mais bon, c'est vraiment très très mineur, très rare. Et l'idée, c'est de proposer des fêtes des fêtes accessibles à tous, pas chères, et où les gens sont invités à venir s'exprimer. Donc on organise souvent, quand on commence l'après-midi dans un parc par exemple, on fait une scénographie, donc il y a des scénographes qui viennent bosser, on fait des ateliers pour les enfants, des ateliers pour les adultes aussi, et puis on propose toutes sortes de musiques. L'après-midi, c'est pas forcément de la techno, ça peut être du reggae, du bel musette, et puis au bout d'un moment, forcément ça vire house techno, et ensuite à la nuit tombée, il n'y a plus d'enfants et on met le son plus fort et on continue entre adultes consentants.
Mmh. D'accord. Et du coup, toutes ces activités, tous ces projets que tu as en cours et que tu as vécu, est-ce que c'est des choses dont tu as toujours rêvé ou c'est venu assez naturellement quand tu as commencé tes études en tant que journaliste? Est-ce que tu voulais être journaliste de voyage ou parler de la fête en général, ou c'est venu vraiment de manière organique?
Non, je savais pas. Enfin, quand j'étais adolescent, en tout cas, moi, je savais pas trop ce que j'allais devenir. Je savais que j'aimais écrire, mm-hmm. et que j'aimais l'histoire. J'ai fait des études d'histoire. Ensuite, je savais pas ce que ça allait donner derrière. Après, j'ai découvert la teuf, j'ai fait ah bon, waouh, incroyable. Et puis, le voyage, j'ai voyagé seul, je suis parti. Quand j'avais 18-19 ans, je partais sac au dos tout seul, découvrir le monde. Et ça a continué, mais je n'avais pas vraiment de plan sur. Je ne savais pas trop ce qui allait se passer. Ça reste open en fait, hein, je sais pas, mais j'ai envie de continuer à faire la teuf, j'ai envie de continuer à mixer, j'ai envie de continuer à écrire. Le truc, il évolue en fonction des opportunités, de ce qui s'ouvre à toi.
Et de toutes tes expériences de voyage, tu reviens quand même toujours en France. Parce que toi, du coup, tu es parisien, tu as grandi ici. Et qu'est-ce qui fait que tu n'as pas voulu peut-être t'installer à l'étranger, ou peut-être que tu l'as fait, mais qu'est-ce qui fait que tu reviens quand même en France et que tu continues du coup de nourrir la scène française et l'environnement qui peut se trouver ici à Paris?
Bah, j'ai mon réseau ici. Fait plaisir d'essayer de faire bouger cette ville qui est. Il y a quand même besoin qu'on lui mette un petit coup de pied aux fesses.
Qu'est-ce que tu aimerais amener en plus
Bah, à Paris,
à Paris par exemple?
quand tu vas à Berlin et que tu reviens, tu te dis quand même,
Il y a un truc.
on est sacrément en retard, quoi. Mais en même temps, Berlin est en train de se normaliser aussi.
Qu'est-ce qui manque par exemple à Paris que tu trouves sur la scène berlinoise, si tu pouvais le définir ou l'expliquer?
Bah, il manque de la souplesse, il manque des espaces pour pouvoir s'exprimer sans que ça coûte des cents et des mille. Ça manque de squats, ça manque de tiers-lieux, ça manque d'endroits où faire la fête, ça manque d'endroits où pour la culture, qui soient pas des endroits institutionnels. Ça ne manque d'endroits pas chers. J'ai l'impression que la mairie en a un peu pris conscience, elle essaye de nous aider. Mais c'est pas évident, quoi. Ben nous, on a créé un syndicat, en fait, avec quelques potes, qui regroupe 34 collectifs organisateurs de fêtes à Paris, ça s'appelle le Socle. On a monté ça il y a 3 ans et c'est l'objectif, c'est de se refiler les bons plans entre collectifs, que les plus anciens puissent conseiller les plus jeunes, et également de parler d'une seule voix avec les pouvoirs publics. Et en fait, ils nous écoutent et on a une oreille bienveillante, quoi. Mais ça bouge quand même très lentement, quoi. On aimerait bien qu'ils nous laissent des espaces vacants, des écoles inutilisées, par exemple, tu vois, des bâtiments qui servent à rien. On aimerait que le bois de Vincennes puisse accueillir des free parties de façon légale, qu'il y ait un cadre. Et il y a des gens à la mairie qui sont prêts à nous aider pour ça. Et puis en même temps, il y a des pesanteurs de ouf qui font que ça se fait pas.
Ça traîne.
Donc ça traîne. Et c'est pas facile. En fait, je me demande si je vais pas bouger, quoi. Là, je suis un peu en période
De
de.
pays.
Ouais, soit de pays, soit de lieu. Si je ne vais pas m'installer à Marseille, si je ne vais pas mettre les passer un moment à Berlin, ou bien.
Tu as déjà fait de vivre ailleurs, à part tes voyages?
Non. Si, j'ai vécu 1 an en Allemagne, mais il y a longtemps. Mais peut-être aussi si ça marche bien avec le petit futé, que je me retrouve à passer la moitié de l'année sur la route, peut-être habiter à la campagne, pour avoir des plages d'écriture. Donc peut-être habiter à la campagne, ouais. Et puis le reste du temps être en voyage. Et puis le reste du temps continuer à organiser des fêtes, parce que c'est ce qui me fait vibrer aussi.
Et ça, cette envie, c'est une conséquence, tu penses, de l'année confinée qu'on a eue, ou c'était que ça venait déjà depuis un moment, ça te trottait dans l'esprit?
Non, non, ça fait un moment.
C'est un tout,
Ça fait un moment que j'y pense, mais il faudrait que toutes les conditions soient réunies. Et si je commence à pouvoir gagner ma vie comme ça, dans les temps sur les routes, pourquoi pas, ou peut-être ouvrir un lieu à Marseille. Là, pour l'instant, je suis en train de chercher, quoi.
D'accord.
Mais je me dis que je vais pas passer ma vie à Paris non plus. Il y a d'autres choses à tenter.
Oui, j'allais te poser cette question. Du coup, est-ce qu'il y a des objectifs que tu as eus dans le passé ou que tu as toujours et que tu as envie de poursuivre, ou des rêves ou des choses qui te tiennent à cœur?
Ben, là, je t'ai parlé de pas mal de choses déjà. Sinon, j'ouvrirais bien un lieu aussi, tu vois, un tiers-lieu à Paris ou à Marseille. Mais bon, là, on est dans un truc, c'est nébuleux, quoi. J'ai pas vraiment de piste. On a essayé de monter quelque chose là, mais c'est pas.
Avec ton collectif?
Ouais.
Ok.
Enfin, pas avec un autre
Un autre
groupe de
collectif?
potes, mais
Ok.
bon, c'est parallèle, hein, c'est un peu les mêmes gens. On discute avec la mairie, mais pour l'instant, la mairie ne nous donne rien. Il faut qu'on continue à chercher. Et voilà, quoi.
Et de tous les pays dans lesquels tu as été, dans lesquels tu as voyagé, j'imagine que tu as eu des expériences de vie et de fête et de liberté à ce niveau-là. Si tu pouvais en donner un exemple, tu as donné l'exemple de Berlin, d'un autre pays, d'une autre culture qui vraiment fait les choses différemment et on pourrait apprendre de leur manière de fonctionner. Après, les cultures sont
Bah,
différentes,
du
mais.
Brésil, on pourrait apprendre la légèreté. Je trouve qu'il y a une sorte d'allégresse dans ce pays qui est incroyable. Un côté tactile, souriant. Ils ont décidé d'être de bonne humeur. Quand tu rentres à Paris, l'ambiance, elle est pesante, quoi. Les gens sont. Les gens. Enfin, on a l'impression d'un pays en dépression. Quand tu achètes ton pain, la boulangère, quand elle te rend la monnaie, elle te dit bon courage. Non, mais c'est flippant, quoi. On n'a pas besoin de se rajouter des trucs comme
Mais dans
ça.
le
Enfin,
spleen tout le temps, quoi.
ça, t'es dans la guerre, dans la résistance. Alors qu'en fait, on est plutôt bien loti en France. On est dans un pays avec la sécurité sociale, avec le RSA, avec le chômage, machin. On est dans un pays conservateur, mais qui fonctionne quand même en suivant un modèle de gauche et qui est bien protecteur. Et c'est un pays qui. Également, on s'en sort pas trop mal économiquement, donc il n'y a pas
C'est
vraiment de
pas.
raison d'être aussi déprimé, quoi.
C'est culturel, hein. Moi, je pense que c'est culturel. C'est une manière d'être. Ok, Brésil.
Donc le Brésil, je trouve que on a beaucoup à apprendre d'eux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme pays? Il y a l'Iran. En Iran, j'ai trouvé que les gens étaient d'une gentillesse, d'une courtoisie, comme
Les
nulle part.
Zoroastriens. Du
Ouais.
coup, c'est ça, c'était avec les.
Là, c'est lui, Zartoche, Zoroastre, qui est au mur, là.
Ah, d'accord.
C'est son symbole.
Oui, c'est ça, donc il vénère le feu comme un dieu à part entière.
C'est ça. Et
D'accord.
puis qui également te demande de bien te comporter avec ton prochain et qui voit le monde de façon dualiste avec le bien, le mal, le paradis, l'enfer. C'est la religion qui a inspiré le judaïsme, qui lui-même a inspiré le christianisme et l'islam. Donc en fait,
La base, les bases.
c'est la religion mère des religions du livre.
D'accord.
C'est notre façon de voir le monde, elle est héritée du zoroastrisme. Mais c'est pas ça
Que tu retiens
que je retiens de
d'Iran?
l'Iran. Moi, ce que je retiens de l'Iran, c'est surtout la gentillesse des gens, la courtoisie. Il y a un truc incroyable là-bas dans l'accueil. Il n'y a aucun pays au monde où les gens sont aussi gentils, aussi accueillants avec l'étranger. C'est incroyable. Tu demandes ton chemin dans la rue, la personne, elle va prendre le taxi avec toi pour t'emmener à l'endroit où que tu cherches et pendant que tu regardes pas, elle paye le taxi. Moi, une fois même, c'était une meuf, elle m'a. Une étudiante, elle n'avait pas plus de sous que ça, elle m'a emmené à l'hôtel et elle a essayé de payer la chambre d'hôtel pendant que je regardais ailleurs, quoi.
Est-ce que c'est parce que tu es un touriste et que
Ouais,
tu es
et
blanc?
parce qu'il faut t'accueillir.
Ah d'accord, ok.
Parce qu'il faut t'accueillir, tu es un étranger. Après,
D'accord.
moi, j'ai un statut particulier, je suis blanc, je suis européen. Les Iraniens, je pense qu'ils n'ont pas forcément le même rapport avec certains de leurs voisins, quoi.
Bien sûr. Mais il n'empêche que c'était prédominant dans l'accueil qu'ils t'ont donné, quoi.
Ouais, c'est ouf.
D'accord.
C'était ouf.
Ok.
Donc voilà, pour ça, l'Iran, j'étais très impressionné par ça,
D'accord.
par leur hospitalité. Donc voilà, on pouvait faire un mélange entre les Iraniens,
Brésiliens,
les
les Allemands.
Brésiliens, les Berlinois, là, je pense qu'on
Bon, ce serait pas
tiendrait le bon
mal,
bout, quoi.
peut-être à faire à Marseille, hein, avec le soleil en plus,
Voilà.
tu serais bien calé. Et du coup, on va parler de ton Paris. Donc, tu as grandi à Paris. J'imagine que tu as fait des études à Paris. Tu as évolué à Paris. Donc, tu as vu la ville aussi beaucoup changer. Si tu devais la définir maintenant en trois mots, qu'est-ce que tu dirais que c'est quoi Paris?
C'est un bouillon de culture. C'est un bouillon. En trois mots, je sais pas, mais plutôt quelques expressions,
Oui,
quoi. C'est un bouillon de culture. Le monde entier, et en particulier les anciennes colonies, ont rendez-vous à Paris. L'Afrique, beaucoup l'Afrique. Beaucoup un peu d'Asie du Sud-Est, Cambodge, Vietnam, qui se retrouvent ici, un peu la Chine, un peu l'Amérique du Sud, qui beaucoup de Chiliens qui sont venus ici pendant la dictature et qui sont restés. Tu as vraiment un
concentré.
concentré du monde. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup à Paris. Il y a un autre truc que j'aime pas du tout, c'est que c'est une ville dont l'architecture se la raconte et manque singulièrement d'imagination. Le style haussmannien, très cette bourgeoisie de la fin du 19e qui reprend les codes de la noblesse en fait. Et qui se fabriquent des immeubles imposants, qui se ressemblent tous, qui sont beaucoup trop grands, qui font 6 étages, avec les chambres de bonne au-dessus, cette pierre blanche. Il y a des gens qui disent que c'est très joli, mais je n'aime pas du tout. Moi, je préfère l'architecture plus modeste, plus petite, et plus variée surtout. J'adore Bruxelles pour ça, une ville avec des trompe-l'œil partout, une ville qui ne se prend pas au sérieux, une architecture qui ne se prend pas au sérieux, ou bien les architectures du sud de l'Europe, j'adore ça aussi. Nice, c'est hyper beau. Rome, même Marseille, tu vois, les ruelles un peu crasseuses et tout, ça a beaucoup plus de charme que ces immeubles haussmanniens. Donc bref, l'architecture qui se la raconte. Ouais, enfin, il y a les trucs, il y a l'élégance, tu vois, de Paris, mais
Tu te rends un peu indifférent.
pas qui me plaît. C'est cool d'avoir de la classe, de la culture, machin, mais en même temps, tout ça participe à une sorte
De
de
prétention.
fierté, de
Ouais,
prétention,
je comprends, je suis d'accord.
qui me fatigue.
Et c'est quoi tes trucs et astuces pour quelqu'un qui débarque à Paris et qui veut travailler dans le domaine de l'art et de la culture? C'est plus général, mais...
Bah déjà, pour quelqu'un qui veut faire la fête,
Ouais.
c'est de regarder les adhérents de notre syndicat, le Socle. Tu as 34 collectifs, on prend que des collectifs qui font des fêtes en dehors des clubs, qui font des fêtes pas trop chères, voire des free parties, et des fêtes où il y a plutôt une bonne ambiance.
Ouais.
Et en fait, si tu fouilles par là, ben tu vas pouvoir te faire un réseau de gens sympas assez facilement. Enfin, facilement. En tout cas, c'est un endroit où tu vas rencontrer des gens chouettes, quoi. Et qui se la racontent moins que le Parisien lambda.
Oui, dans les clubs, c'est un peu en réaction au club
Ouais, le clubbing parisien n'a aucun
branché,
intérêt, quoi.
ouais.
Il n'y a aucun intérêt. Il n'y a pas une boîte à Paris où tu peux. Enfin, en vrai, il y en a une, il y en a trois. Il y a la station, qui a un esprit vraiment berlinois, ou un truc un peu friche, industriel, pas cher, à l'arrache, avec pas trop de contrôle, pas trop moins de surveillance, quoi. Donc c'est un endroit avec une programmation hyper variée, pointue. Ça, c'est cool. Tu as deux petits clubs un peu rigolos. C'est le chinois à Montreuil et la Java vers République. Mais c'est pas comparable avec la station qui a une vraie ambition artistique. Et donc ouais, donc les collectifs du Socle, je trouve que
Ouais, il y en a.
on a un peu fait la synthèse des bons collectifs parisiens, même s'il en manque. Il y a aussi pas mal de collectifs queer qui sont pas chez nous, qui sont intéressants. Et sinon, qu'est-ce que je conseillerais à quelqu'un qui débarque à Paris pour travailler dans la culture? Franchement, c'est la galère. Hein. Elle n'est pas bonne.
Ok.
C'est un peu la galère. Ouais. C'est pas. Il y a du taf, mais enfin, faut se.
Faut sortir.
Enfin, ouais. Non, faut accumuler les stages en fait. Hein. Mm. C'est les stages qui t'ouvrent ensuite des portes pour trouver du taf, quoi. Voilà. Faut être bénévole, machin, et puis ensuite, après avoir travaillé comme bénévole dans. Bénévole dans des collectifs ou dans des collectifs d'artistes ou même dans les squats, il y a tout un réseau de squats où il se passe des choses, ou dans des collectifs de teufs, tu te fais ton réseau et puis après tu peux gagner des sous, quoi. Tu peux ensuite valoriser ton expérience.
Okay,
j'ai pas vraiment de solution miracle.
Ouais, non, personne n'en a, mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir des conseils. Parce que chaque ville a quand même son mode de fonctionnement et. Sans la connaître, tu peux déjà avoir des outils donnés par les autres, en fait, qui l'ont vécu avant moi ou avant d'autres personnes qui débarquent à Paris. Dernière question, c'est quoi Falto pour toi? Comment tu définis la...
Falto?
Ouais. La Faltouch, comme il l'a bien appelé.
C'est la fantaisie. C'est la fantaisie. Moi, je l'ai connu quand il bossait à la radio. C'était un peu l'équivalent de Michael Youn, qui faisait la matinale sur M6. Il faisait un petit peu le même genre de blagues hyper inventives, mais à la radio, sur une petite radio, quoi, sur FG. Et donc, c'est un mec plein de ressources et très drôle, quoi. Plein d'improvisation. Il sortait beaucoup à l'époque, je pense que ça doit être un peu moins le cas, parce que là maintenant il a fondé une famille. Mais c'était vraiment une sorte de mec qu'on croisait dans toutes les teufs et qui passait son temps à faire des blagues rocambolesques. C'était le roi de l'impro, quoi. Et je pense qu'il a gardé cette fantaisie.
Fantaisie dont apparemment Paris a besoin.
Bon, carrément,
ouais. Plus de déclinaisons différentes de Falto pour avoir de la fantaisie.
Bah ouais. Originalité. Il en faut plus. Il faut plus de fantaisie, moins se prendre au sérieux. Paris, c'est une ville qui se prend trop au sérieux.
Ça marche. Peut-être à la Marseille, alors. Ça se prend sur le concert à la Marseille.
C'est d'autres, c'est vraiment pas du tout la même chose, quoi.
Non.
Je pars demain d'ailleurs pour 10 jours à Marseille.
D'accord.
On va aller organiser des teufs là-bas.
D'accord.
Et puis je vais prendre le soleil, aller à la plage et travailler, quoi. Et faire un peu de bateau.
Sans
prendre le soleil.
Ça marche. Ben, merci beaucoup.
Je t'en prie.